Tout un plein rendez-vous convivial, comme peut l'être une bonne agape entre amis, avec un maître de cérémonie que j'accueille, Daniel Fazan. Bonjour Daniel.
Bonjour Philippe.
Le thème du jour doit vous réjouir. On va parler de fumée.
Ah oui, alors on va parler de fumée, parce que la fumée est quand même un des premiers moyens de conserver la nourriture. Alors évidemment, c'était pas l'unique, mais autrefois, la fumée était autorisée. En tout cas, elle l'est toujours pour les poissons, pour les viandes, pour certains produits. Et un fumeur que nous avons invité, qui a créé une enseigne qui s'appelle l'Armoire à Brume à Cervion, Serge Porchet est notre invité. Bonjour Serge.
Bonjour Daniel, merci de m'accueillir ce matin.
C'est sympa, et vous êtes venu avec un acolyte. Alors je prononce bien les choses, parce qu'il ne s'agit pas de l'inverse. On a le droit de fumer, mais pas de boire. D'un ami qui s'appelle Christophe Lichty, et qui est pêcheur professionnel à Villeneuve. Bonjour Christophe.
Bonjour Daniel.
Alors, vous êtes tous les deux associés à la fumaison. Alors, le problème, Philippe Girard, le savez-vous, c'est que l'Académie n'a encore pas tranché, l'Académie française bien sûr, il ne s'agit pas de moi, n'a pas tranché entre fumaison et fumage. Alors, on ne sait pas encore aujourd'hui si on doit dire fumaison, fumage. Serge Porchet, vous employez quel terme ?
Alors, ça varie selon les interlocuteurs, mais ce que je sais, c'est que le terme fumiste n'est pas du tout adapté.
Alors fumiste, sans doute pas, mais vous êtes quoi ?
Alors
vous
êtes. Alors, moi, je me définis comme artisan fumeur, ce qui enlève tout quiproquo.
Ouais. Alors, fumer un poisson, c'est pour le conserver, mais on s'est tellement habitué, Philippe, vous le savez bien, au goût du saucisson, au goût du jambon, aux viandes fumées, que le poisson reste, même si aujourd'hui on n'a pas besoin de conserver le poisson d'une manière X ou Y, ce goût de la fumée est extraordinaire, c'est un rajout, c'est un, comment dire, c'est une tradition, Serge Porchet, parce que fumer un aliment, c'est lui ajouter quelque chose.
Alors fumer un aliment dans un premier temps, c'était surtout le conserver. On a les premières traces de fumage dans les écrits qui ont été retrouvés à moins 4000 ans. C'était les Égyptiens qui fumaient, comme ils avaient peu de bois.
Déjà,
oui. Ils fumaient avec des éjections de chameaux. Ensuite, dans les années, on retrouve beaucoup de documents, mais dans les années 1400, on fumait le poisson, mais il était tellement fort qu'on le servait comme épice.
Ah oui.
Donc, après, il y a eu des progrès dans le fumage. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je dirais, il y a vraiment deux styles de fumage. Le fumage à froid et le fumage à chaud. Donc, fumage à froid avec des températures, je dirais, de 16 à 30 degrés maximum. Pour nous, on dépasse jamais les 16 degrés. Et des fumages à chaud allant jusqu'à 80 degrés.
Alors, cette grande différence entre le fumage à chaud et le fumage, à froid, Ça change complètement la texture du poisson. Ça change quoi ?
Avec un fumage à chaud, les chairs sont cuites. Ça se fait en une heure et demie. Avec un fumage à froid, si on prend pour le poisson, ça peut durer d'une vingtaine d'heures à un ou deux jours. Et pour des saucisses ou des jambons, à plusieurs semaines.
Alors, ça détériore moins à froid les chairs, la nature de la viande ou de la chair du poisson qu'à chaud.
C'est complètement une autre approche. À chaud, on parle vraiment d'une cuisson. Et fumage à froid, on aura préalablement un salage qui va tirer l'eau des chairs, raffermir, raviver aussi certaines fois les couleurs. Et puis après, un fumage à froid qui, lui, va permettre au poisson de sécher et en même temps de s'imbiber d'une fumée qui sera très légère.
Et le choix du combustible, le choix du bois, il a une importance dans le goût qu'aura le poisson fumé ?
Alors tout à fait. Je dirais, si on prend tout ce qui est saucisse, charcuterie, choses fumées comme ça, c'est beaucoup avec un résineux, donc le sapin. Pour le poisson, on est dans des essences qui sont beaucoup plus fines. À l'Armoire à Brume, nous servons du hêtre, du frêne et du cerisier.
Et ça fait une grande différence ?
C'est complètement différent. Si vous avez un résineux, vous aurez plutôt un principe de charbonnage, quelque chose qui va venir très foncé, très noir. Avec des essences où il n'y a pas de résineux, ce sera beaucoup plus léger.
Christophe Lichty, vous êtes pêcheur, vous sortez des ferrats du Léman à Villeneuve en grande quantité, il faut bien le dire ces temps, même si la perche est un peu en perte, si je puis dire, mais la ferra, elle est extrêmement abondante. C'est intéressant de faire fumer son poisson chez un grand spécialiste.
Oui, c'est très intéressant de proposer justement le poisson sous une autre forme que poisson cru à cuire.
Ouais.
Et puis c'est clair que ça permet aussi de faire découvrir un tas d'autres saveurs qu'on a, avec un savoir-faire qui est aussi qui est superbe. Donc,
mais c'est quoi ? C'est pour éviter de... Ou alors, pour, je ne sais pas comment dire, Philippe, aidez-moi.
Mais... Moi, je ne peux pas parce que je suis en train de manger du poisson.
Ah ben, vous faites bien. On a d'ailleurs des plateaux de dégustation qui sont magnifiques. C'est pour jouer avec la quantité, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de fer à un jour, un peu moins le lendemain, etc. C'est pour jouer sur la quotidienneté et l'arrivage du poisson parce que, justement, c'est aléatoire.
C'est clair, c'est un bon plus de toujours pouvoir proposer quelque chose à la clientèle. Et c'est clair que le poisson fumé, donc le fumé à froid, il est congelé, parce qu'il faut le congeler avant de le fumer. Donc ça permet aussi de faire un peu tampon, ça permet aussi de le proposer pour les fêtes. Et c'est clair que c'est bien agréable.
Et ça se conserve longtemps, du poisson fumé ?
Alors le poisson fumé... Moi, je dirais oui, il se conserve longtemps. Après, il y a une question de goût, question de structure qui change. Donc, nous, on est resté à 3 semaines de conservation, parce qu'on a testé question gustative.
3 semaines au frigo.
3 semaines au frigo, oui, mais mon collègue Serge, il pourra mieux vous en parler.
Serge Porchet.
Oui.
Alors, 3 semaines au frigo, c'est les... Donc, on définit nos produits dès la sortie du fumoir, 21 jours par rapport à de la ferra. On sait pertinemment que ça tient plus longtemps, mais je dirais qu'au bout de 21 jours, il y a une légère modification par rapport à la texture et au goût. Et pour avoir une plénitude sur toute la durée définie, on s'est bloqué à des dates assez courtes.
Mais Serge Porchet, Christophe Lichty dit on doit congeler le poisson. C'est quoi ? C'est justement ce grand spectre de la sécurité qui fait que si les poissons ont des vers intestinaux, etc., c'est cette sécurité-là qu'on enclenche en faisant la congélation.
Alors, l'ordonnance sur les denrées alimentaires dit que tout poisson consommé cru ou fumé doit être congelé.
Combien de temps ?
Alors, on a 2 jours à moins 20 degrés. Et là, on a la garantie que les petits vers qui peuvent être à l'intérieur des chairs sont détruits pour pas qu'on puisse avoir des soucis de santé par la suite.
Ça vous inquiète, Philippe Girard? Vous êtes en train de manger?
Pas du tout. Non, parce qu'il faut savoir que Christophe Lichty nous a amené des assiettes de dégustation. Alors, je ne sais pas, peut-être pouvez-vous nous décrire ce que nous avons dans nos assiettes. Le pain, ça je connais. C'est
bravo,
bon.
Bravo.
Mais alors, on a trois terrines, je dirais, ou je sais pas si c'est des terrines.
Il y a un tartare, en tout cas.
Un tartare.
Donc, il y a un tartare de ferra, donc c'est la ferra crue. Mm-hmm. Qui est
congelée, donc elle a été congelée à un moment.
Elle était pêchée, travaillée, donc désarrêtée, ôter la peau, directement émincée.
C'est celle-là, c'est celle que je suis en train de goûter.
Exact.
Mm-hmm. Et c'est un poisson cru.
Mis sous vide par portion et puis bloqué au congélateur. Donc là, je le descends, je le choque.
C'est extraordinaire.
Et comme ça, ça permet aussi justement de sortir fur et à mesure et puis toujours une fraîcheur et une qualité qui est au rendez-vous.
Mais Christophe Lichty, surtout, vous êtes, vous, un homme de métier de bouche au départ. Je crois que c'est important de le préciser.
Oui, ben, à la base, je suis boulanger-pâtissier-confiseur.
Et ensuite pêcheur.
Et ensuite pêcheur, en passant par différentes cases.
Donc, dans votre pêcherie du Léman à Villeneuve, vous faites un travail aussi, on pourrait dire, non seulement de poissonnier, mais aussi de traiteur.
Oui. Oui. Ouais. Oui, on fait aussi des mousses, des terrines.
Oui.
Justement, après, il y a...
La terrine ?
C'est une rillette de ferra. Donc, la particularité, c'est de la ferra fumée à chaud qui a été utilisée. Comme cuite.
Ouais.
Donc,
avec des graines,
alors, c'est
des graines de moutarde.
Moutarde à l'ancienne. Mm-hmm. Donc, il y a de la crème, du citron, moutarde à l'ancienne, ciboulette.
C'est magnifique,
ça. Et la ferra fumée à chaud.
C'est
donc,
bon.
C'est vraiment une autre texture.
Vous aimez ça ? Même le matin ?
Excellent. Ça passe le matin, même le matin, effectivement.
Mais on peut faire.
Bon, moi, j'aime bien les petits déjeuners salés, donc je ne suis pas forcément un exemple.
Oui, alors justement, il y a des réticences, parce que dans les pays du Nord, Serge Porchet, on fume énormément les poissons. Il y a les roll mops aussi. Ici, est-ce que c'est en train d'évoluer ? Est-ce qu'on s'intéresse davantage aux poissons fumés ?
Alors, tout le monde ne déjeune pas avec,
mais non.
C'est vrai qu'il y a...
Bien
on,
sûr.
Sent, on sent un engouement et une recherche des produits authentiques, des travaux qui sont faits par des artisans avec des poissons de la région. On a une augmentation des ventes de la ferra qui est vraiment très très nette. Alors, est-ce que c'est dû à la qualité du produit? Est-ce que c'est dû, je dirais, au mode du moment? Il y a plusieurs facteurs, mais on peut dire qu'il y a un engouement et que c'est un produit qui démarre très fort.
Mais s'il y a un engouement, est-ce que les pêcheurs arrivent à suivre, Christophe Lichty?
Bonne question, c'est la nature qui décide.
Est-ce qu'il n'y aura pas pénurie au bout du compte?
Alors, j'ai pas assez d'expérience dans le temps pour dire, mais ce que je peux constater, c'est que la ferra, elle est abondante, elle est là. C'est pas tous les jours facile de l'attraper, mais il y en a. Donc après, c'est aussi à nous de bien gérer les stocks et pas de faire des surpêches, mais là, je crois qu'on est bien encadré. Donc ça va bien.
Mais Christophe Lichty, il y a un truc incroyable que j'ai vu comme information et même à la TV. Un poisson de plus de 39 cm, on doit le jeter parce qu'il est trop grand. Mais c'est quoi cette connerie?
C'est principalement sur l'homme chevalier qu'ils ont découvert qu'il y avait un risque de PCB à l'intérieur.
Alors on peut dire ce que sont les PCB, Philippe Girard, vous qui êtes un spécialiste.
Alors les PCB, ce sont, je ne connais pas le terme développé, mais enfin voilà, ce sont des résidus de plastique.
Ouais.
Alors, que l'on retrouve ensuite dans les poissons.
Dans les ombles, là en l'occurrence, et on ne peut pas vendre... Un poisson de beau et éventuellement superbe même, qui fait 40 cm, au-dessus, c'est invendable, c'est quoi?
Légalement, non, c'est pas vendable.
Ah bon?
Mais c'est toujours la même chose, il faudrait en manger tous les jours ou quotidiennement pour vraiment avoir un risque. Donc je suis toujours là, j'en ai souvent mangé. On verra si le futur...
non, je pense... Vous punira, oui.
Honnêtement, voilà, c'est une précaution qui est là. Faut faire avec, et puis l'avenir nous dira.
Serge Porchet, vous-même, vous faites contrôler vos poissons pour contrôler justement la teneur de PCB, micropolluants à l'intérieur, ça vous arrive?
Alors, tout ce qui est poisson du lac, donc je me fournis exclusivement chez M. Lichty, et je lui fais totale confiance. Il respecte vraiment tout ce qui est règles et dictées. Et puis, pour tous les saumons, on travaille avec le saumon d'Alaska sauvage. Là, je dirais, il n'y a pas de problème actuellement. Et pour l'élevage, là, ils sont contrôlés pour le saumon d'Écosse.
Alors, on va parler de la ferra. On a parlé de la ferra, mais on va parler aussi du saumon, puisque c'est la spécialité de l'armoire à brume à Cervion. Vous êtes juste en face de chez Barnabé, si on vous cherche. Ça, c'est très facile à trouver. Vous importez... Vous êtes un pêcheur fou, déjà, depuis l'enfance. Dans n'importe quel ruisseau, vous avez sorti des gros poissons, même dans les petits ruisseaux. Et puis, vous allez faire de la pêche à la mouche, etc., dans les rivières d'Alaska, d'Écosse, etc., Serge Porchet. Mais vous importez ces poissons. Et aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est un poisson sauvage. Comment peut-on définir un saumon, par exemple? Parce que les ferras de Lichty sont forcément sauvages, puisqu'elles sont dans le lac et ils ne les élèvent pas dans sa baignoire. Mais les saumons qui viennent d'Écosse et d'Alaska, ils sont sauvages ou pas sauvages?
Alors, c'est au jour d'aujourd'hui, du saumon, on en trouve partout, n'importe qui en vend. Et puis, c'est le grand Capernaum, c'est-à-dire que vous trouvez du saumon d'élevage, du saumon sauvage. Alors, les étiquetages sont justes, mais ce qui n'est pas expliqué clairement, c'est qu'au fait, nous avons deux océans, l'océan Atlantique, donc avec une sorte de saumon. Donc, dans l'océan Atlantique, si on définit juste la carte, ça nous donne le nord de la France, l'Irlande, l'Écosse, l'Islande, Norvège, Suède, un petit peu le Québec.
Jusqu'aux États-Unis.
Voilà.
Jusqu'au Nouveau Monde.
Et là, du saumon salmo-salar, il n'y en a plus au sauvage. Il n'y a plus que de l'élevage. Tous les stocks ont été détruits pour un travail, je dirais, où nous en faut toutes les semaines.
Mais alors ce saumon, s'il est d'élevage, alors que sa manière de se reproduire, c'est d'aller dans la rivière de sa naissance, de redescendre et d'aller en mer, de prendre du gras et ensuite de remonter, il fait ça comment, le saumon?
Alors les œufs sont pris sur des géniteurs, ils sont élevés au lac, et une fois que ça devient des tout petits saumons, eh ben ils sont mis dans des filets en mer pour être élevés. Donc là, nous avons, dans le salmon salar, plus que du saumon d'élevage.
Du sauvage, ça n'existe plus en Europe.
En Europe, il n'y en a plus. Maintenant, comme vous voyez, saumon sauvage, c'est forcément du saumon d'Alaska, qui est une autre sorte, avec un autre style de vie, qui vit en mer, et c'est celui que vous voyez qui monte de les rivières, qui se fait manger par les ours et qui meurt. Et
là, alors, c'est celui du Pacifique.
Pacifique.
Il porte un autre nom,
voilà,
compliqué.
Ocorhynchus.
Ocorhynchus.
Voilà.
Oh, ce pauvre chéri. Alors, c'est celui qui est très, très rouge quand il remonte les rivières, qui est moche, qui va se reproduire et que, j'ai vu une photo de vous, et qui sort un king, un saumon qui est rouge vif, et qu'ensuite, ce pauvre saumon, bah, il meurt, pas seulement parce que vous l'avez attrapé, mais parce qu'il a fait son cycle.
Alors, il a fini son cycle. C'est-à-dire que tous ces saumons, et il y a des rivières où il en remonte 50 000 par jour, c'est sur une vingtaine de jours, donc c'est vraiment énorme. Tous ces saumons vont vivre un, deux mois en rivière, se reproduire.
C'est facile à attraper, ça.
Non, c'est pas facile du tout.
Non.
Ils sont pas motivés.
Comment motiver? Pour aller sur la table? Non, ça je comprends. Mais c'est facile à choper 50 000 saumons dans une rivière par jour. Il suffirait de mettre des filets. Puis c'est du sauvage celui-là.
Alors ça c'est du sauvage, ils les attrapent dans les estuaires. C'est défini par des règlements où vraiment ils arrivent. Il y en a tellement que depuis les satellites, ils arrivent à définir la masse de volume et définir ce que le pêcheur, les grandes pêcheries peuvent prélever. Avant qu'ils remontent dans la rivière et laisser le capital nécessaire pour la reproduction.
Mais Serge Porchet, pourquoi ils sont rouges?
Alors, au départ, c'est un saumon qui est complètement argenté.
Oui.
Et quand il arrive dans l'estuaire de la rivière...
Il est fou de sexe?
C'est exactement ça. Il a plus de système digestif, plus de système immunitaire.
Mais non.
Il est branché reproduction. Et au fait, ses chairs commencent à se dégrader. Et puis...
Ah ben, il est pas bon, alors.
Alors, quand il devient rouge, il est plus bon.
Ah ouais. Alors, ah ben voilà pourquoi on le pêche pas. On
exactement.
Lui fout la paix. Ah oui. Alors, vous me disiez, on a échangé quelques courriels, Serge Porchet, vous me disiez qu'il y a plusieurs sortes de saumons pacifiques, parce que là, on parle du saumon pacifique, on est bien d'accord, puisqu'il est sauvage. Il y en a qui sont pas bons, enfin, qui sont moins bons que d'autres.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent rien, dans le saumon d'Alaska, il y a 5 sortes. On dit c'est du saumon sauvage, saumon naturel, extraordinaire. Dans ces 5 sortes, il y en a 3 qui se consomment avec quand même des degrés de qualité, donc le raid étant le meilleur. Mais il y en a 2 autres sortes qui sont vraiment pas bonnes. Et
ah
que
ouais.
J'y étais cet été, les gens ils les pêchaient pour donner ça aux chiens pendant l'hiver.
Chouette.
Mais vraiment, ils sont pas bons.
Ah ouais.
La chair a aucune valeur gustative, l'odeur est pas terrible.
Et là, on a sous le nez. Vous êtes d'accord, Philippe Girard?
Moi, j'ai fini toute la mousse.
Déjà?
Elle était délicieuse.
Alors, la mousse. Alors, moi, j'aime moins la mousse parce que c'est, elle est formidablement faite, hein. On est bien d'accord. Simplement, elle perd évidemment la texture du poisson. C'est ça le problème.
Bah, c'est le principe d'une mousse quand même, Daniel, non?
Oui. C'est peut-être, oui. C'est comme si je reprochais une glace d'être froide. Mais oui, j'aime moins, quoi. Mais c'est formidable parce que là, vous nous avez apporté de la ferra de l'ichti, qui est fumée. Mais vous avez goûté ça,
oui.
Philippe?
Oui, c'est délicieux.
Alors. L'important, c'est la texture, on est d'accord.
Alors, c'était le grand défi, c'est de fumer à froid de la ferra, chose qui se faisait pas beaucoup avant, et puis de garder une texture ferme. Donc on a un poisson qui à la base est très fragile et puis là on arrive à le fumer et obtenir une texture qui est très ferme et un goût qui est d'une finesse. Je dirais que gustativement, on va pas comparer ça à du saumon, mais ça tient tout à fait la comparaison.
Ça vous arrive des ratés?
Alors dans les essais, on a beaucoup d'essais, quelques réussites, mais que c'est commercialisé, non, il n'y a plus de ratés.
D'accord.
Alors là, c'est une ferra du Léman, mais dans le canton de Neuchâtel, on dit la bordelle?
Alors,
la rondelle fumée, c'est peut-être un accent. Mais c'est quelle sorte de poisson la ferra, Christophe Lichty?
Alors, ça fait aussi partie de la famille des corégons. Donc après,
ou des corégones.
Corégones,
ouais, 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 aussi.
Après, ben, actuellement, il y a un grand débat à savoir dans le lac Léman, quelle espèce réelle c'est. Est-ce que c'est toujours du Corégonius lavaretus ou une autre espèce qui a été réintroduite pour justement repeupler le lac? Donc là, on attend toujours une réponse.
Ah, c'est pas défini.
C'est pas défini, il y a des hypothèses, mais c'est pas défini. Donc,
c'est compliqué la vie. On peut pas dire fumaison ou fumage en étant sûr. Mais
et
on
en
peut
tout cas pas,
dire
pas fumure non plus.
Alors la fumure, c'est
autre chose.
Oui. Et puis on peut pas dire corégone, on peut pas dire ferra ou bordel.
Donc nous, on voit ça sous ferra.
Ouais.
Et puis que tu marques le nom là.
Mais c'est le même poisson, en gros.
En gros, c'est la même famille de poissons, oui. C'est un poisson qui se trouve dans tous les lacs alpins. Donc,
Alors, il y a du brochet aussi, Christophe Lichty, parce qu'il y a une recrudescence. Alors, on cherche des poissons toujours les mêmes dans le Léman, c'est-à-dire les perches. Ça fonctionne de moins en moins bien. On se demande pourquoi, mais enfin, il y a des études là autour. Il y a de plus en plus de ferrats et aussi de plus en plus de brochets. Pourquoi ?
Ben, disons, le brochet, il se développe bien parce que vu que les eaux, elles deviennent plus claires, moins riche en phosphate, ce qui favorise tout ce qui est poisson de fourrage, donc le gardon, la ferra aussi, poisson, tout ce qui est salmonidé.
Dites quoi, poisson de fourrage?
J'appellerais ça poisson de fourrage. Donc
c'est quoi?
C'est des poissons comme le gardon qui sont...
Végétariens,
oui.
Qui bouffent les algues.
Ils bougent les algues.
C'est ça le poisson de fourrage.
Puis après, donc, c'est une nourriture essentielle du brochet. La ferra aussi, il aime bien. D'ailleurs, je fais passablement de brochets dans les filets à ferra parce qu'ils vont se servir dedans et puis ils restent coincés.
Ah.
Donc,
ils sont gourmets et ils se font...
La masse de poissons qu'il y a à disposition pour eux est vraiment bien, saine.
Ouais.
Ça favorise, c'est clair, le carnassier.
J'ai une question à poser aux pêcheurs que vous êtes. Vous êtes un pêcheur d'eau douce. Ça vous est déjà arrivé d'aller pêcher en haute mer?
Non, jamais. J'aimerais bien une fois,
oui,
pour voir.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Lichty est une star en Russie. Il y a eu plein de reportages, on ne sait pas pourquoi, mais juste ça s'est concentré comme ça. En Russie, on parle du lac Léman très souvent au travers de Christophe Lichty. Et puis j'imagine qu'en Alaska, on parle beaucoup de Serge Porchet et de l'Armoire à brume, n'est-ce pas?
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas cet été... Aux abords du bus camping, on peut dire que tous les soirs, on fumait notre petite filet de saumon pour le lendemain matin à déjeuner.
Ça suffit combien d'heures pour fumer un filet de saumon?
Alors là, c'était, je dirais, fait un petit peu
à la manière, non, camping.
À la manière camping, où on se faisait les grillades dans le grill, et puis après on mettait de la sciure, on déposait le filet de saumon, et on laissait ça l'étouffer toute la nuit, pour avoir notre petit filet de saumon le lendemain matin à déjeuner.
Vous trouvez meilleur que cru, que normal, enfin disons non fumé?
Dans le contexte, c'était magnifique, mais je dirais que c'était plutôt du saumon cuit à la fumée.
Ouais.
Donc ici, ça se commercialiserait pas. Je ne pense pas que ça marcherait.
Voilà, Philippe Girard, je ne pense pas qu'on ait fait le tour des poissons fumés.
Non, mais on n'a pas fini nos assiettes, donc on a hâte d'arriver aux infos.
Et j'aimerais dire que c'est un plaisir de fumer. Quand on goûte ce type de produit, on se dit que l'interdiction de la fumée devrait être prohibée. C'est l'interdiction qui devrait être prohibée.
Exactement, et l'obligation de manger des choses aussi bonnes. Merci beaucoup Serge Porchet de l'Armoire à Brume à Servion et Christophe Lichty, pêcheur professionnel à Villeneuve et propriétaire de la pêcherie du Léman dans le bourg même de Villeneuve. Vous souhaite un excellent week-end.
Merci,
une bonne pêche aussi. Et puis un très beau week-end aussi à vous, Daniel.
Merci.
On se donne rendez-vous samedi prochain pour en faire à nouveau tout un plat.
Tout un plat avec Café Kikodoro et son système à capsules.